CT, écouté sur l'actualité le 10 mai 2026, enregistré le 13 mai 2026. Petit problème de gestion de montant, de toute apparence. De formation en fin de semaine passée, ça a brassé tout. Préparation pour le Nordsec qui est imminent au moment où j'enregistre, dans lequel je vais enregistrer énormément de podcasts. J'ai très hâte de rencontrer toutes les personnes qui vont être là. Ça va être vraiment, vraiment très top. Mais bref, petit problème de gestion de montant. En espérant que ça aille mieux. De toute façon, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est rendu quasiment un acquis que j'ai de la difficulté à gérer mon temps pour arriver à enregistrer dans les délais attendus par rapport à cet épisode-là, en tout cas du moins mes délais que je me suis fixé essentiellement. Bref, shameless plug, 9 au 17 mai, qui est le Nordsec. On est en plein dedans au moment où vous allez écouter, c'est la première, ça va être probablement la première journée ou la veille de la première journée, si diffusé en soirée aujourd'hui. Le 6, 3 au 5 juin, très très hâte d'y aller. J'ai hâte de recroiser des gens, collaborateurs de podcasts, des gens que je connais. Bref, en plus de me faire saigner des yeux et des oreilles avec le contenu super intense qu'il va y avoir, j'ai très très hâte. Troopers le 24-25 juin, le Hack le 26-27 juin. Si les situations mondiales se résorbent, je vais y aller. Sinon, ben, c'est en hésitation encore pour le moment. Fait que je ne sais pas si je vais. Et allez, mais j'aimerais vraiment beaucoup aller à ces deux événements-là, notamment le premier pour le fait de découvrir un espèce de Black Hat-ish européen, allemand en l'occurrence. Donc de voir cette philosophie-là, j'ai déjà été commencé à battre contre. Tous ces événements-là m'amènent dans un univers différent, non nord-américain au niveau de la cyber, et j'apprends beaucoup. Donc j'aimerais beaucoup m'imbiber de cet environnement-là aussi. Et le hack, j'ai beaucoup aimé l'an dernier, on avait eu l'occasion de faire là-bas avec Martin. Cette année, ce serait plus François avec qui j'allais. Mais bref, beaucoup de plaisir. 19 septembre, le B-Side, dans lequel j'ai très hâte. On va avoir probablement plusieurs podcasts aussi qui vont avoir lieu. InCyber 1 ou 3 décembre à Ottawa cette année. Changement de forum, changement d'approche. J'ai très hâte de voir cette transformation-là, comment ça va avoir lieu sur le contenu. J'espère qu'on va avoir accès à encore autant de conférenciers internationaux, ce qui est un peu plus difficile normalement dans les différentes plateformes ou forums qu'on a au Québec et au cas du moins dans l'Est du Canada par rapport à ce qu'on peut attirer de conférenciers, notamment européens. Donc, tout mon amour pour les événements européens aussi, qui m'amène une vision différente. Fait que, bon, bref, ça m'évite d'aller aussi loin et c'est beaucoup moins coûteux que d'aller en Europe pour faire ça. Et le 24 et 25 février, le CQ revient, les premières rencontres commencent à avoir. Fait qu'ils vont commencer à avoir peut-être un petit peu de contenu qu'on va commencer à afficher très, très prochainement. En tout cas, j'ose espérer avec certains éléments de préparation qui. Je suis super content de différentes facettes qu'on est en train d'aborder. En tout cas, bref, j'ai très, très hâte de commencer à pouvoir annoncer les choses. Mais par ailleurs, je laisse le temps au, notamment le Nordsec, à passer et justement pas empiéter sur les autres événements et pas le créer ombrage dans une petite communauté dans laquelle on est. J'essaie d'être équilibré, outre le fait que je suis tout excité sur mon podcast. Bref, première section sur l'intelligence artificielle. On va reparler encore un peu de Mythos parce que c'est encore actif globalement. Somme toute, là, il y a plusieurs nouvelles par rapport à cette annonce-là qui a eu lieu. La première, c'est que le Mozilla a corrigé beaucoup de bugs dans Firefox. Par ailleurs, l'article mentionne que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui a été corrigé à cause de Mythos, à cause d'Opus, à cause de whatever. Donc oui, ça va l'augmenter, puis c'est un des aspects importants. On va avoir beaucoup de patchs qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est un fait, mais c'est pas Mythos lui-même qui est porteur, mais le réveil que ça l'amène. Et c'est justement un des éléments très importants, puisque le coup de pub, autant ça c'était pour Anthropique, pour faire valoir la qualité de ses produits, autant ça a créé un onde de choc dans le milieu de la cyber suffisant pour que les gens se réveillent, en espérant que ce réveil-là dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse adopter nos pratiques, mettre des moyens de gestion des vulnérabilités et gestion des correctifs qui est efficace, plus que celle actuellement, et qu'on puisse commencer à déployer ce qui ressemble à du zéro trust, justement pour réduire les zones de déflagration ou réduire les zones d'exposition de nos services, justement pour limiter la potentialité qu'on a devant nous pendant les... Bref, c'est un peu ça. Et finalement, le gouvernement américain a finalement renversé le fait d'avoir défait les après, entourant le AI aux États-Unis, Trump l'avait renversé ce que Biden avait fait. Clairement, Trump a eu peur de Mythos et va ramener une bonne partie, si c'est pas la totalité des règles. J'ai pas lu dans le grand détail, mais bref, les policiers ont changé pour remettre sur pied ce qui était un peu les vérifications et justement le contrôle inhérent à cette technologie-là. Donc, bien vouloir de déréguler, mais en même temps, clairement, quand ça fait peur, on change un peu les règles. Fin de section de Mythos, sinon c'est le AI bomb. Comme le SBOM essentiellement, c'est de comment répertorier le fonctionnement, les appuis et tous les composants que s'appuie un modèle AI. C'est intéressant de voir cette approche-là puisque comme c'est un composant qu'on va avoir de plus en plus dans nos systèmes, c'est important de comprendre les tenants et aboutissants de celui-ci, ses dépendances, ses communications, ainsi de suite. Donc le AI BOM va se servir à avoir ce mapping, ce que le SBOM fait au niveau des dépendances logicielles et des packages. Même si c'est imparfait, au moins ça nous donne un chemin vers une plus grande visibilité. Et en cyber, cette visibilité-là, elle est fondamentale à notre capacité de pouvoir agir, intervenir et faire quelque chose d'utile, surtout en incident d'ailleurs. Si on n'a pas cette cartographie-là, c'est très difficile de gérer un incident de façon très, très efficace. Autre nouvelle, ou en tout cas, opinion très intéressante, il dit c'est votre base de données, ce n'est pas les AI qui a effacé votre base de données, c'est vous. Et essentiellement, c'est un peu de pointer la négligence des gens dans l'usage du AI pour faire leurs travaux. Le fait de leur donner la capacité au AI à faire des mises en prod ou la capacité au AI à travailler avec des bases de données de prod et peut-être sur le poids sur les gens qui l'ont fait, tout en sachant que ces systèmes-là ne sont pas fiables et qu'ils sont plus probabilistes et qu'on donne des moyens probabilistes et non déterministes à des accès à des systèmes de prod, ça revient un peu à nous, notre responsabilité ou notre négligence ou notre méconnaissance d'utiliser des outils qui sont trop dangereux pour notre capacité et les conséquences qui s'ensuivent sont essentiellement sur nous. Et pour tout ce que j'ai écrit comme papier à l'heure actuelle de directives, de politiques, de choses qui viennent encadrer l'intelligence artificielle, l'essentiel, c'est que la machine est responsable de rien. C'est toujours l'humain en arrière qui est responsable de tout. Il y avait le papier de IBM qui d'ailleurs très vu que la machine ne peut pas, le gestionnaire ne peut pas, le gestionnaire demeure toujours imputable. Donc, notamment ici, le professionnel qui utilise l'AI ne peut pas déléguer sa responsabilité au AI, c'est sa responsabilité qui est mise en jeu. Donc, on devrait peut-être rappeler aux gens que quand ils utilisent des agents, qui utilisent du AI, qui font des éléments de production, c'est leur responsabilité qui est mise en jeu. Et peut-être, ça va peut-être refroidir ou ramener un peu les choses à la bonne place, parce que je pense que les gens ont oublié que la machine ne peut pas prendre responsabilité de rien, que c'est leur responsabilité qui est mise en jeu. En tout cas, bref, c'est une très belle réflexion. J'espère qu'elle va continuer à évoluer justement pour être internalisée par plus de gens, mieux comprendre pour à la fois tirer les bénéfices de l'intelligence artificielle et à la fois ne pas tomber dans les pièges et la facilité qui nous amène avec tous les échecs qui sont clairement, là, j'en retiens qu'un petit nombre pour les nouvelles parce que sinon j'en aurais probablement pour 300 nouvelles différentes juste sur ces échecs-là d'utilisation du AI. Et ça, sans parler de ce que je vois dans ma vie professionnelle en plus. Mais bref, justement qu'on puisse ramener ça au bon endroit, faire un bon usage, aller chercher les bénéfices qu'on est capable et laisser l'intelligence artificielle mûrir le temps que c'est nécessaire pour les autres aspects. Autre nouvelle, Chrome ou Google a installé un mini modèle 4 gig sur nos machines. C'est un peu parce que la nouvelle est très drôle parce qu'elle fait référence à toute la consommation électrique et de gaz carbonique qui a été générée par le déploiement de ça. C'est un regard intéressant, puis je pense qu'on devrait ça d'un côté, mais il demeure que le fait que Google pousse ce genre de modèle-là un peu partout commence à devenir un peu troublant, considérant que Chrome est une espèce de OS-ish assez gros sur la plupart des applications qui passent à travers ça maintenant. Donc, tout cet écosystème-là est assez puissant en soi et incidemment, d'avoir mis ça là pose des questions très importantes sur la volonté de Google d'aller plus loin ou de vouloir utiliser ça d'une façon ou d'une autre qui n'est pas, en tout cas, clairement pas dans l'article, n'est pas déclaré encore, ou de le fait que les gens ont vu apparaître ça et se sont énervés. Bon, après ça, une fois que la clarté qui va venir après va probablement atténuer, mais c'est quand même intéressant de voir à quel point, puis Microsoft le fait aussi avec tous les copilotes dans Windows 11, tout cet appétit-là à nous pousser le plus possible l'intelligence artificielle à peu près partout est très particulière. Moi, j'ai un malaise général face à ce genre de choses-là. Mais bref, on est dans cet univers-là, fait qu'il faut voir comment on peut s'y préparer correctement. OpenAI a été victime d'un plugin-ish ou d'un skill, en tout cas, bref, ils ont des noms qui leur sont particuliers, qui étaient infectés. C'est, j'ai mis la nouvelle-là parce que c'est intéressant de ramener ça un peu dans l'esprit des gens que l'univers a beaucoup changé depuis, disons, les 5 à 10 dernières années, où avant, on peut télécharger relativement sans s'inquiéter des plugins pour des types de choses comme OpenClaw permet de faire. Par ailleurs, maintenant, l'univers a changé et les attaquants sont très, très imaginatifs, très, très, ils ont très faim aussi. Donc, on est intéressé à faire de l'argent le plus qu'ils peuvent. Donc, il faut être beaucoup plus prudent qu'à une certaine époque. Et incidemment, ces composants-là, ces skills-là ou ces plugins-là doivent être mieux regardés. C'est la même chose pour Chrome, c'est la même chose pour tous ces univers-là. Il faut être beaucoup plus prudent qu'on devait l'être avant. Il y a d'ailleurs beaucoup, beaucoup de nouvelles qui parlent de plugins infectés. C'est la même genre de choses, mais bon, dans le côté du AI, comme c'est nouveau, comme tout le monde a l'air d'avoir oublié toutes les notions qui étaient pré-AI en utilisant le AI, c'est comme ça avait fait un reset dans le cerveau des gens. C'est vraiment fascinant. Je trouve ça important de rappeler que ces vieilles attaques-là vont revenir aussi dans cette stratégie-là. Les nouvelles un peu comiques sur le fait que les hackers se plaignent aussi des slop AI, c'est intéressant de voir sur les... Essentiellement, c'est de... Ils surveillent sur les forums de Darknet tous les conversations qu'il y a depuis la sortie d'Open de ChatGPT d'OpenAI en 2022. Et incidemment, les hackers se plaignent à peu près de la même façon que n'importe qui se plaint ou n'importe quel employé se plaint de la surabondance du AI, la mauvaise qualité de ce qui en sort et tout ce qui est fait et un peu la paresse que les gens ont à prendre des raccourcis avec ça. Par ailleurs, puis je trouve ça intéressant parce que ça met ça en perspective sur le fait que de façon massive, effectivement, les hackers, ou en tout cas les groupes criminels, les cybercriminels, utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Quand c'est bien fait, ça paraît pas, comme dans le monde corporatif standard aussi. Le problème, c'est que la plupart des gens utilisent ça comme raccourci pour être plus gros qu'eux-mêmes, donc être beaucoup plus capables qu'ils sont réellement, et là, ça commence à paraître. Ou les criminels, dans ce cas-ci, de bon niveau, qui utilisent ça de façon tout croche justement parce qu'ils veulent s'improviser cybercriminels et utilisent ça. Fait que, bref, c'est un peu cet univers-là et ils vivent essentiellement le même malaise que le restant du monde vive. Plusieurs milliers d'applications Vibe Coding vont exposer des informations confidentielles ou personnelles sur le web. On l'a vu avec beaucoup d'applications comme T, par exemple, qui est mon go-to exemple, sur le fait d'une application qui a exposé beaucoup, beaucoup d'informations personnelles parce qu'elle était vibe codée, mais ça revient sur le fait que l'essentiel de l'ingénierie ou la conception de logiciels demande quand même une très bonne connaissance. Quand on met ça dans les mains de gens qui n'ont aucune connaissance, c'est comme demander à un passant de construire un pont sans connaître tous les fondements nécessaires pour construire un pont qui ne tombera pas. Donc, je reviens toujours avec cet exemple-là où, comme Cindy le disait dans un des podcasts, un volet PME, construire une maison, ben c'est pas tout le monde qui est capable de construire une maison de A à Z. Donc, ça prend de la connaissance, ça prend de l'expérience. On peut pas faire ça n'importe comment parce que si on fait ça n'importe comment, ça donne pas des bons résultats. Donc, incidemment, c'est le même genre de choses. D'espérer de servir des applications qui sont sécuritaires de base, qui fonctionnent bien, tout est correct. En faisant du vibe coding, ben la réponse est non. Puis jamais on trouve avec énormément de données qui vont fuiter comme ça. Je trouve ça place à ma gasse parce qu'il y a beaucoup de mes données personnelles qui sont impliquées là-dedans. Et à la limite, j'aimerais même savoir que les sites se déclarent quand que leur application a été vibe codée. Mais à ce moment-là, je sais que j'ai un risque assez grand que mes données vont fuiter plus tôt que tard. Donc, j'éviterais d'utiliser ce genre d'application-là un peu comme dans le cas de Tips qui m'a beaucoup achalé, surtout que c'est des femmes vulnérables qui sont majoritairement des femmes vulnérables qui sont sur Tips. Et ces femmes-là ont trouvé leur information personnelle, photo, passeport, permis de conduire, d'exposer sur leur DAC web parce que la personne n'avait pas les compétences pour développer une application sécuritaire et configurer le back-end de façon sécuritaire. Donc, à ce moment-là, ça doit peut-être d'avoir affiché ou avoir un permis. Puis on revient toujours sur l'ordre professionnel. Il y avait l'ASTIC, une des personnes de l'ASTIC était venue sur le podcast avant le ITSEC, justement, qui parlait de ça. On est peut-être rendu à ce moment-là où on devrait peut-être réglementer. Je ne suis pas très favorable. Je n'ai jamais été très favorable à la réglementation en TI ou en cyber, puisque c'est un métier qui est particulier. On est peut-être rendu à un stade où la dépendance technologique est tellement grande, l'importance que ça a dans nos sociétés est tellement grande, qu'on ne peut plus laisser n'importe qui s'improviser avec nos données, avec les conséquences qui sont quand même assez importantes par rapport à ce genre de choses-là. Dernière nouvelle, un peu plus légère pour le AI, c'est Kevin Beaumont qui mentionne justement un adolescent qui prend possession d'une compagnie sur le fait de recopier les commandes d'un PDF écrit en 2019. Là, c'est un peu une boutade qu'il fait. Puis il fait référence à plusieurs fuites de données, notamment en Europe, dans lesquelles c'est des adolescents, comme ça se faisait il y a dans mon jeune temps essentiellement, où c'était le mythe du jeune adolescent en hoodie qui fait ça. Ben, bref, c'est un peu ça. Et la saboutade, c'est essentiellement qu'il complète son message par le fait que ben, c'est ça, aller à la vitesse grand V maintenant avec le AI et tout, et sur le fait que justement, c'est vraiment juste des affaires qui sont encore de base, qui permettent de jeter à terre, et le AI n'est pas tant hot que ça. Et mon expérience aussi, j'ai tendance à voir que quand ils disent « oui, on avance à une très grande vitesse », j'ai pas, en tout cas, bref, j'ai pas ce feeling-là qu'on avance vraiment à une vraie grande vitesse ou on tourne en rond à une grande vitesse, probablement en plus. Je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser, puis le AI a juste ralenti ou réduit la capacité de prendre des décisions transcendantes qui permettent de faire évoluer les choses. Mais bref, c'est ce que je vois autour de moi. Ça m'attriste un peu parce que je pense qu'on a des belles capacités qu'on pourrait avancer, mais finalement, on ne les utilise pas à la hauteur de ce qu'on pourrait et nous amène dans une situation qui est un peu moins reluisante qu'on pourrait avoir avec les beaux outils technologiques qu'on a dans les mains. Bref, fin de cette section-là. La section suivante, c'est au niveau de la guerre, parce que c'est encore très présent. Et là, c'est d'ailleurs la première nouvelle, puis là, c'est le déplacement des nouvelles de AI dans des sections différentes, parce que j'ai commencé à réduire la part directe sur le volet AI. Je vais l'étaler un peu plus dans les autres sections. J'ai de moins en moins aussi besoin de faire des résumés de presse qui sont spécifiques sur l'intelligence artificielle. Donc, dès lors, ça va déplacer un peu ma façon de faire aussi le tri dans le podcast, puisqu'il y a d'autres affaires que je fais avec ces informations-là que je recueille. Bref, au niveau de la guerre, au niveau Israël, Israël utilise l'intelligence artificielle pour faire du targeting pour justement bombarder de façon supposément chirurgicale sur la base d'informations des cellulaires, par exemple. C'est un environnement très particulier. Là, on parle de guerre. L'article est très intéressant. Globalement, il est quand même assez long. Parle aussi des erreurs potentielles, qu'on peut devenir des cibles par accident et tout cet usage de l'AI dans un théâtre de guerre est encore assez messy, est encore pas bien normé. Donc, dès lors, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de morts accidentelles, si on veut, et dans un contexte où on a des conventions de Genève, notamment, on a des encadrements de comment on fait la guerre. L'usage de moyens comme ça était peut-être un peu à se re-questionner. Et au-delà de ça, puis c'est bien en dehors du fait que du contexte qu'Israël ou toutes ces affaires-là de guerre, je prends pas la position si c'est bien ou c'est pas bien, tout ça, mais c'est vraiment l'usage de l'intelligence artificielle dans le contexte. Un peu comme j'avais mentionné, le fait que l'usage de l'intelligence artificielle pour la décision de partir en guerre en Iran n'était pas une bonne décision, mais l'élément est à peu près la même chose dans lequel il peut y avoir beaucoup d'erreurs d'interprétation, les changements ou les modèles statistiques ne sont pas d'une très grande fiabilité, puis clairement, dans ce cas-ci, bien, l'humain n'est pas nécessairement dans la boucle, ce qui limite la capacité d'intercepter des décisions qui sont, en ce sens, dangereuses ou littéralement illégales au sens des lois, des règles qui encadrent la façon qu'on fait la guerre ou les conventions internationales. Donc, bref, c'est à se poser. Puis c'était la même chose dans l'analyse que j'avais relayée pour le fait de l'usage du AI pour partir en guerre avec l'Iran. Essentiellement, les présomptions que l'AI avait faites, c'était complètement fortes, que si un vrai expert s'était penché sur la question, elle ne serait pas arrivée à la même décision. Et si la décision avait été prise, elle aurait été prise dans un contexte différent avec d'autres a priori qui ont été pris et dans lequel on ne serait pas pris encore à ce moment-ci dans un conflit qui a tout le sens de vouloir s'éterniser et qui va être sur la longueur plus que sur la résolution rapide qui avait été souhaitée initialement. Bref. Deuxième nouvelle et dernière de ce côté-là, c'est les Polonais. Les services de renseignement polonais ont réussi à limiter les dégâts ou en tout cas arrêter le fait que les hackers, les méchants attaquent les systèmes de traitement d'eau. C'est pas nouveau que les attaquants s'en prennent à ces infrastructures-là avec le fait qu'on a de moins en moins de règles de guerre respectées par le fait des différentes guerres qu'on a actuellement. Il va de plus en plus courant que les attaquants vont s'en prendre, ou en tout cas, bref, les pays hostiles ou peu importe, à des infrastructures critiques, notamment des systèmes de traitement de l'eau. Par exemple, on l'a vu un peu aussi avec la Palestine, Israël, l'Iran, tout ce qui se passe de ce côté-là aussi, toute cette inclusion maintenant de ce qui était normalement en reporté parce que c'est des infrastructures civiles. Et selon les conventions, c'est normalement hors portée de la guerre. Et dans ce cas-ci, je pense que les façons qui sont faites et les façons cachées aussi, parce que les États ne sont pas nécessairement appuyés ou déclarés quand ils font ce genre d'attaque-là. Fait que, bref, on est dans un contexte qui va être de plus en plus inquiétant pour la plupart des gens. Et comme citoyen, même si je suis loin au Canada, je suis à un clic de souris d'un attaquant qui voudrait s'en prendre aux infrastructures de traitement d'eau ici. Donc, ce n'est pas exclu que ces problèmes-là touchent le Canada, touchent les États-Unis, touchent l'Europe. Donc, il y a des questions à se poser, mettre l'argent nécessaire. On voit aussi dans le système de santé qui s'en prennent de plus en plus, ils ont de moins en moins de scrupules. Donc, c'est un peu triste que ces scrupules-là maintenant sont tassés et comme il y a une certaine forme d'anonymité dans les attaques, ben, ils s'en prennent maintenant sans trop se faire. Bref. Section suivante sous la souveraineté, une nouvelle sur le DHS qui demande à Google de donner des informations sur une activité d'un Canadien, donc notamment sa localisation et beaucoup d'autres informations, puisque celui-ci aurait supposément fait des publications anti-ICE aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, cette nouvelle-là, pas autant que le DHS a fait ça, puis je ne remets pas nécessairement en question la portée de l'intervention, n'étant pas un juriste ou n'étant pas dans ce contexte-là. Par ailleurs, ce qui est intéressant de cet article-là, et ce qui pour moi, et je trouve important de relayer, c'est que pendant des années, on nous a brandi l'épouvantail du Cloud Act comme étant la capacité des Américains à aller fouiller les données à l'étranger. Et là, on voit que finalement, c'est pas celui-ci, c'est une loi de 1930 qui est utilisée par le DHS pour aller chercher l'information qu'a demandé à Google. Et en l'occurrence, ben là, on en parle parce que Google, de sa politique interne, informe la personne qui a été visée par la demande pour lui permettre d'entreprendre les démarches légales pour se protéger s'il y a lieu. Et dans le fond, c'est un peu ça qui s'est passé en l'occurrence. Et ce cas-là va aller se débattre dans un tribunal de Californie, je crois. Et donc, la question juridique va se poser, mais je trouve ça important parce qu'il y a toutes les fameuses lois que tout le monde, le Patriot Act, que le monde qui est mort déjà depuis plusieurs années et que les gens citent encore, le Cloud Act que les gens citent et comme épouvantable qui n'a pas été utilisé en l'occurrence, le FISA 702 qui n'a pas été utilisé en l'occurrence. Donc, on est vraiment dans un cas très particulier. Enfin, c'est intéressant de voir que l'arsenal légal américain est beaucoup plus différent que les espèces épouvantables qu'on nous met devant le visage. Donc, j'ai l'impression qu'on a des questions importantes à se poser de ce côté-ci et de se poser à quel point et comment les lois ont des impacts réels sur la souveraineté et que finalement, peut-être que le Cloud Act n'est pas le vrai épouvantail qu'on aurait utilisé, mais on aurait utilisé d'autres éléments plus probant en termes de d'explication et de relativer aussi l'effet des effets légaux et à comment ceux-ci peuvent entraver la souveraineté des pays avec leurs données, et ainsi de suite. Fait que ça vient encore rebrasser les cartes, encore une fois. Et c'est intéressant parce que là, on approche de vraies menaces réelles au niveau légal de ce bris de confidentialité-là sur l'information d'étrangers pour les Américains. Bref, on est dans un contexte comme ça. Puis en plus, c'est un cas qui aurait été très probable d'utiliser le Cloud Act puisque c'est un acte criminel dans lequel ICE veut utiliser dans ce cas-ci. En tout cas, ce qui présume criminel, ce qui aurait pu passer par le Cloud Act normalement pour accéder à l'information, ils n'ont pas utilisé. Donc, c'est des questions à se poser. Ça va sûrement avoir des rebondissements dans les prochaines semaines ou pas, parce que mon cycle de nouvelles, des fois, ne me permet pas d'avoir des suivis sur ce type de nouvelles. Bref, mais c'est intéressant de voir que finalement, on n'est pas dans la même place, que les gens n'arrêtent pas de s'énerver avec la souveraineté numérique. Et bon, bref, de l'aborder avec les vraies Les 20 cadres légaux sont beaucoup plus intéressants et probants pour nous aider à faire les choix éclairés. Section suivante, privacy. Dans quelques-unes cette semaine, Apple a fait des mises à jour, donc il y a plusieurs éléments qui ont été changés. J'ai mentionné notamment le fait qu'il n'y a plus de conservation en cache-ish des notifications, le fameux signal gate où les gens, les forces de l'ordre ont été capables de retracer des messages dans signal puisque c'était stocké temporairement ou permanent dans une base de données de cache pour ces informations-là. Donc ça, c'est corrigé. Et d'autres éléments qui sont apportés à chaque itération, Apple réaffirme un peu plus ces éléments de vie privée qu'ils rajoutent. On a même le rajouté en 26.5, tout le chiffrement RCS. Donc maintenant, les textos entre Android et iPhone sont, ceux qui sont verts sur iPhone, sont maintenant chiffrés également. Donc, c'est très intéressant de voir ça apparaître. Donc, on laisse un espace à la vie privée d'avantage de très, très puissant du côté d'Apple. Ils ne sont pas blancs comme neige. Bien, les petits knick-knacks qui ne sont pas propres côté Apple. La question n'est pas là, mais les ajouts qui sont faits de façon générale et pour la majorité des gens est quand même très intéressant. Donc, il y a des gains importants de ce côté-là. La fuite de données en Alberta sur la liste des listes électorales, elle est intéressante pour deux choses. Parce que d'un côté, le fait que ça a été fait, c'est, je pense que les gens ne mesurent pas à quel point c'est dangereux pour la vie des gens de diffuser ce genre d'informations-là de façon aussi ouverte que ça. C'est pas sans conséquence de faire ce type de choses-là, puisque ça peut avoir des impacts sur des vies. Dans ce cas-ci, il y a des gens qui se retrouvent à être visés par les attaques qui vont être autour de cette action-là. Donc, c'est pas sans dommage. Puis, je pense que les gens ne mesurent pas la totalité ou la portée des gestes qu'ils ont fait en conséquence. Donc, je pense que ça serait important de rappeler que même si on a des idéologies, il faut quand même faire très attention de ces idéologies et, dans le fond, quand on va faire fuiter, d'avoir des conséquences sur les gens et les vies humaines qui, normalement, sont protégées par ces informations, parce qu'on normalement n'est pas supposé avoir accès à ça. Et la nouvelle suivante ou conséquente par rapport à ça, ces listes-là contiennent des canaries. Et c'est très intéressant parce que c'est emprunté au système de renseignement américain, notamment la CIA, où il y avait des fuites. Et essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des faux électeurs dans la liste, donc des canaries, qui sont différents à chaque personne qui a cette fameuse liste-là. Et donc, en ayant ces canaries-là, permet de retracer qui a fait fuiter quelle liste, parce qu'il y a un faux électeur différent dans chacune des listes, donc de l'ordre de savoir qui n'est pas le bon. La CIA l'utilisait notamment en changeant les paragraphes de fin des textes qui étaient généralement réutilisés par les journalistes en n'ayant pas exactement les mêmes mots, en utilisant des mots, des synonymes, permettait de savoir quel synonyme était utilisé pour quel document, et donc dès lors de trouver qui avait fuité le document en question par rapport à ça. Donc c'est intéressant de voir que c'est utilisé dans ces stratégies-là, c'est du low-tech, puis c'est très intéressant de voir que ça fonctionne encore et que c'est très difficile de se protéger de faire fi de ça. Donc, c'est un bon moyen de protection contre les personnes qui diffusent de l'information sensible, comme la liste électorale en l'occurrence, et d'avoir cette capacité-là à repérer les gens qui ont fuité. Donc, dans ce cas-ci, faire référence à la nouvelle précédente, ils ont trouvé la fuite, et donc cette compagnie-là va se retrouver à être poursuivie pour avoir fait fuiter ces informations-là, et probablement les conséquences sur des vies humaines ou la mise en danger de vies humaines de par l'accessibilité de ces informations-là aussi également va probablement leur coûter assez cher. Donc, c'est un rappel que on ne peut pas faire des folies comme ça. Ça a des conséquences sur la vie des gens et heureusement, nos systèmes nous permettent de contrôler, de limiter les dommages qui sont associés à ce type de choses-là. Une étudiante d'un collège au Tennessee poursuit une compagnie de dating pour la réutilisation de vidéos TikTok pour faire de la publicité. Et là, on est dans une zone, puis je l'ai mis dans cette section-là parce que c'est intéressant, parce que les vidéos TikTok, il faut regarder les licences, mais on n'a pas tant de droits que ça. On a mis des informations sur Internet, donc ils peuvent être réutilisés. Il y a quand même une compagnie en dehors des États-Unis qui a utilisé ça pour faire la promotion, justement pour être capable d'attirer. Donc, d'utiliser un visage familier pour intéresser les gens, ou les jeunes hommes en l'occurrence, d'utiliser cette application-là. Donc, un mélange de concepts là-dedans. Puis je pense que nos lois sont un peu insuffisantes. Alors, en plus aux États-Unis, d'ailleurs, elles sont insuffisantes. Mais je pense que nos lois, de façon générale, sont insuffisantes pour protéger correctement l'usage et l'encadrement. On est dans un moment de je pense que la folie d'innovation, je pense qu'elle est relativement terminée. Il y a le temps qu'on ait des lois cohérentes qui protègent adéquatement. Et même si l'Europe a beaucoup d'avance sur le côté des lois, celles-ci ne sont pas toujours utilisées de façon à atteindre les bons objectifs. Plusieurs lois, on va voir plus loin, j'ai des nouvelles là-dessus, qui sont très dirigées vers des objectifs très étroits et qui malheureusement ne sont pas réfléchis dans le grand ensemble. Donc, c'est à voir. Puis il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de malaise par rapport à ça. Puis je reviendrai plus tard, mais il serait temps qu'on ait commencé à avoir, il serait temps d'avoir des lois plus cohérentes et qui permettent de protéger adéquatement. Dans la nouvelle de cette section-là, l'Instagram n'encrypte plus bout en bout les messages. C'est depuis le 8 mai, donc n'utilisez pas cette plateforme-là, présumant que vos communications sont chiffrées bout en bout. Section suivante, la loi. Premier bloc, c'est sur la protection des enfants. Deux nouvelles qui sont un peu intercalées. Le fait que 16% des parents aident leurs enfants à contourner les contrôles d'âge et que les enfants ont trouvé, quand se dessinait une moustache, ils étaient capables de contourner les contrôles qui sont en place. Ces nouvelles-là, je les trouve intéressantes puisque je ne suis pas particulièrement outré que ça soit comme ça. Il n'y a jamais eu présomption que ces systèmes-là étaient parfaits. Ils n'ont pas l'objectif d'être parfaits. Ils ont l'objectif de réduire l'accessibilité de ces des informations sur Internet qui sont considérées comme toxiques pour les adolescents et les enfants. Donc, dès lors, j'imagine que ça réussit quand même à réduire cette accessibilité-là. Ça permet aussi de ne pas tomber par accident sur du contenu qui on pourrait considérer nocif pour ces enfants-là. Et là, ça devient un geste délibéré de ces enfants-là. Là, on parle aussi des médias sociaux, de contourner les règles en place. Donc, on change un peu le paradigme. Donc, quand on est en contravention ouverte face à une loi, une réglementation, à ce moment-là, c'est plus la même réflexion qu'on a à travers ça. Et de tous les temps, on a contourné les règles, on a contourné ce que c'était. Il suffit de penser que tous les parents qui ont sorti de l'école pour leurs enfants qui n'étaient pas en âge de prendre un verre de vin ou un verre de bière et qui ont permis ces sorties d'argent-là, on le voit, de boissons-là, de boissons alcoolisées, avant qu'ils aient l'âge légal dans le pays. On voit largement dans les films américains où les jeunes en bas de 21 ans qui prennent de la boisson, par exemple. C'est un très bel exemple. Donc, de fait que les parents encouragent ou autorisent le fait que les enfants contournent, ça devient leur responsabilité. Au sens légal, je sais qu'au Canada, si un parent fait ça, c'est le parent qui est responsable légalement d'avoir enfreint la loi et peut être puni en conséquence. Mais par ailleurs, ça c'est quand même donné l'agence aux parents de prendre une décision par rapport à ce qu'ils veulent que leurs enfants voient ou ne voient pas. Donc, on est quand même dans un contexte où je trouve que dans un moment où on enlève beaucoup de responsabilités des parents, où l'État s'ingère beaucoup dans comment les parents peuvent éduquer leurs enfants, moi, j'ai pas de malaise au fait que les parents autorisent et donc pour des raisons qui les regardent de faire ce genre de choses-là, de contourner les règles. Et de l'autre côté, ben là, l'effet qui soit imaginatif, c'est-à-dire toute personne qui n'a pas eu un adolescent dans sa vie ou qui ne se révèle pas son adolescence, je pense qu'on a oublié que c'est un moment où on a une énorme imagination pour contourner les règles, pour réussir justement à essayer de trouver une façon de sortir de la boisson, par exemple. Ça fait partie des rituels, du moins en Amérique du Nord, de trouver une façon de pouvoir contourner ces règles-là. Donc, de penser que ça n'allait pas arriver, c'est un peu fou. Maintenant que ça s'est arrivé, maintenant qu'on constate ce genre de choses-là, puis là, on est outré, puis machin, mais là, faut accepter le fait qu'il y aura cette règle-là est imparfaite, que la technologie ne réglera pas 100% du problème, et dès lors, d'accepter un seuil, une marge d'erreur. Et à ce moment-là, c'est quelle est la marge d'erreur qu'on tolère, la question qu'on se pose. Et j'ai vu aucune de ces publications-là qui ont parlé de tolérance, de marge d'erreur et comment on peut faire pour vivre avec ça et comment on peut améliorer pour réduire la marge d'erreur de ces systèmes-là tout en ne coupant pas l'accès légitime, mais en même temps en limitant au plus grand nombre possible les jeunes qui accèdent à des choses qui ne devraient pas. On ne parle pas là, de quelque chose qui est d'une gravité extrême non plus. Là. Mais bon, bref, fin de l'éditorial. Je m'excuse pour ceux qui pensent juste de la nouvelle qui n'aiment pas mes opinions. C'est un peu comme ça, c'est un peu l'intérêt aussi de d'avoir cette tribune-là. Bref, une nouvelle suivante, en dehors de ça, Meta, Zuckerberg sont poursuivis pour avoir volontairement enfreint les règles de droit d'auteur pour l'entraînement des modèles AI. C'est un problème persistant. Les autres modèles aussi l'ont fait. Tout le monde, c'est toujours cette espèce d'espace où comment on entraîne les modèles et à quel point on enfreint les règles. Dans ce cas-ci, il semblerait que Zuckerberg a pris une décision légitime. Et de toute façon, en entreprise, c'est le prérequis de prendre un risque. Il a pris un risque. Il s'est fait prendre. Et là, il faudrait que le système en place, justement, punisse le fait qu'il ait été pris et que ça se fasse. Parce qu'on peut pas faire ce genre de geste-là, donc ça vient d'évaluer la qualité des lois. Donc, on ne peut pas laisser les lois non respectées, sinon c'est comme laisser de la mauvaise herbe prendre dans le jardin. C'est très, très difficile après un certain nombre de temps d'avoir laissé pousser la mauvaise herbe, de reprendre le contrôle de la mauvaise herbe dans le jardin et de reprendre le contrôle dans le jardin. Donc, bref, c'est important que les lois soient appliquées, que les règles de droit d'auteur soient respectées, parce que c'est quand même le fondement même de la création, c'est de protéger les œuvres pour que le créateur puisse tirer un revenu décent de ceux-ci. Donc, bref, dans cet esprit-là. Et les lois fondamentales de brevets et de droits d'auteur aux États-Unis sont très intéressantes, justement pour permettre de cette protection-là, pour favoriser l'innovation. Et si on ne respecte plus les droits d'auteur, bon, on défavorise l'innovation. Plus personne ne va vouloir créer parce qu'on ne sera plus capable de vivre de notre art. Et je pense que bien à des égards, autant ceux qui subissent l'usage abusif de l'intelligence artificielle qui perdent leur emploi ou que leur emploi est dévalué parce que l'intelligence artificielle a pris de la place, ou inversement, les gens qui se font voler en plein jour, ben, je pense qu'il y a intérêt à se poser des questions. Une démocrate pose des questions sur l'usage des Spire pour le gouvernement américain. Très intéressant parce que c'est des codes qui sont très intrusifs dans la vie des gens, dans le contenu. Donc, de se poser les questions et de mettre les choses en place, c'est très important, très simple pour une démocratie qui essaye de s'en sortir. Elon Musk fait face à des accusations criminelles en France de la suite d'avoir ignoré la convocation de justice en France. Dans ce cas-ci, il y a aussi un face-off entre la France et les États-Unis sur le fait que les États-Unis disent que c'est politiquement motivé comme geste. En l'occurrence, le fait qu'il y ait eu de la pornographie juvénile qui a circulé sur X, qui a été faite par Grok. Déjà, j'ai un énorme malaise par rapport à ça. Tu sais, je veux pas, là, pense pas que c'est politiquement motivé. Je trouve quand même que ça a été un peu lent avant d'avoir des actions de ce côté-là. Et il faudrait que ces gens-là soient tenus responsables de leurs actes. On l'a vu avec Telegram. Qu'est-ce que ça s'est passé? À un moment donné, faut rendre compte que personne n'est au-dessus de la loi et que ça s'applique à tout le monde. On peut pas de façon d'agir impunément contraire à la loi, notamment avec de la pornographie juvénile, surtout de la pornographie juvénile, surtout qu'il y a beaucoup d'efforts un peu partout à travers le monde pour lutter contre la pornographie juvénile. Puis ça, on fait ça en plein jour de l'autre côté, fait que c'est une espèce de forme d'hypocrisie aussi. Là, en tout cas, bref, j'ai un énorme malaise avec cette situation-là. Et la dernière nouvelle de cette section-là, c'est la France qui veut encore briser les messageries cryptées. Puis on est encore dans le même concept de on veut que les forces de l'ordre, machin, tout ça. Puis l'approche qui est utilisée en l'occurrence, c'est d'utiliser un tiers parti qui se joint aux conversations pour voir le contenu. C'est pas étranger à comment fonctionnent la plupart des rencontres comme Teams, Zoom ou Meet qui justement viennent injecter un troisième un participant invisible pour faire le sous-titrage, l'enregistrement, ainsi de suite, ça de un. Et comment le système d'infiltration que je ne me rappelle plus quelle force de l'ordre, mais en tout cas, bref, il y a eu une grosse opération, qu'il y avait des cellulaires supposément protégés qui étaient vendus ou crime organisé, mais finalement qui envoyaient à un tiers parti le contenu des conversations. C'est pas sans rappeler ça, mais en l'occurrence, d'injecter ça dans les messageries communes comme Signal, par exemple, ou peu importe les messageries chiffrées dans lesquelles on vise à travers ça, ça va toucher aussi les gens qui mettent ça en place et ça va à terme les desservir. On le voit aussi avec ce qui se passe aux États-Unis, une leçon que les choix qu'on fait parfois nous mènent à des situations inattendues qui sont contraires à ce qu'on avait espéré des gestes qu'on a choisis, qui étaient fondés sur une certaine croyance. Mais la croyance qu'on peut briser le chiffrement sans conséquence sur les gens honnêtes et sur les gens dans des positions de pouvoir aussi également. Là, tu sais, c'est faire des chasses aux sorcières politiques, ça va devenir beaucoup plus facile de drainer les communications de personnes influentes ou d'adversaires politiques. Donc, il y a beaucoup de dangers de jouer dans ces eaux-là. Puis je ne comprends pas pourquoi on y revient de cette façon-là. Mais bon, bref, c'est des débats qui reviennent couramment. C'est comme une mauvaise grippe là, qui veut pas partir. J'ai hâte de voir, parce qu'il y a un intérêt légitime pour que la police puisse, ou les services de renseignement, ou peu importe, avoir accès. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour leur job ou sont capables de le faire autrement ou de façon tout efficace? Bref, c'est à voir. La section suivante sur le rouge. Sur le rouge, qu'est-ce qui se passe dans le rouge? Il se passe CopyFail. CopyFail a été rendu disponible la semaine dernière. C'est une nouvelle faille dans Linux qui est assez importante, encore très grave, encore des problèmes, encore dans un contexte où il faut quand même avoir des accès au système. Fait qu'on n'est pas juste comme dans la nature, puis pouf, on est dans le problème. De un, mais c'est à rejeter, ça a été rejeté, donc il faut patcher nos Linux encore une fois. Aussi, c'est disponible, je pense qu'au moment où l'avais lu initialement, il n'y a pas de patch, mais je pense qu'elle a été rendue disponible depuis. En tout cas, j'ose espérer qu'elle a été rendue disponible depuis. Et l'autre aspect à ça, c'est que la compagnie qui l'a diffusé a utilisé l'AI pour trouver le problème, de un, et de deux, a utilisé l'AI pour faire la rédaction du rapport. Et ça l'a amené une confusion parce que pour les analystes qui travaillent beaucoup dans ce domaine-là, la qualité du rapport des informations n'était pas à la hauteur de ce qui est attendu. Donc, a créé une certaine forme de malaise dans le milieu sur le fait que ça enlevait de la crédibilité à ce qui a été annoncé. Donc, ça a créé beaucoup de buzz sur des choses à côté et ça revient à rappeler que l'intelligence artificielle utilisée beaucoup, les humains le détectent parce qu'il y a comme une petite saveur synthétique dans le texte qu'on lit ou dans ce qu'on fait. Puis on a comme une petite perception. Parce que, bref, à ce stade, on est encore à ce niveau-là. Et ça, c'est comme... j'avais lu des études là-dessus il y a un certain nombre d'années sur les jeux vidéo où c'est de plus en plus réaliste et où même certains dessins animés, certains films d'animation qui sont suffisamment réalistes, mais pas assez. C'est-à-dire qu'il y a juste un petit glitch qui fait que c'est pas assez réaliste. Puis donc, ça crée, c'est comme awkward un peu. On s'est dans un petit peu malaise. Fait que ces petits éléments d'inconfort apparaît encore là-dedans. Donc, ça a amené cette confusion-là. Et ce qui est un peu malheureux, puis je pense qu'il faudrait qu'on arrête de faire ce genre de chemin-là. Et que je pense pas que l'esprit humain va s'adapter, va se conforter à cette zone-là. Je pense qu'on va toujours rester avec un petit doute suffisant qui vont créer du malaise. Bref. Ransomware, ça va de plus en plus mal. Les choses changent. Le recrutement va pas bien. C'est difficile. Fait que c'est un milieu qui est très actif, très intéressant de savoir qu'ils ont des problèmes de recrutement dans les milieux criminels. Bon, mais en même temps, ça démontre à quel point c'est endémique. Il faudrait peut-être régler des problèmes en amont pour que ça soit plus comme ça. Mais bref, ça, c'est une chose. Et on est rendu dans des contextes, c'est maintenant où ces groupes-là vont clamer des fuites qui n'ont jamais existé ou vont aller même pas chiffrer, ils vont juste comme clamer des choses. Ils sont rendus tellement paresseux qu'ils vont tellement plus assez loin que c'est assez fascinant. Mais ça crée le même bordel. C'est les compagnies qui se font déclarer qu'ils reçoivent un courrier qui dit « Vous avez été hacké. » Mais va nécessiter quand même des efforts de gestion d'incidents forensiques et ainsi de suite qui vont dévier des ressources et faire mal à les organisations malgré tout. Donc, ça crée une espèce de bordel qui est encore plus grand. Puis, je pense qu'on n'a pas terminé de voir ce genre de choses-là. Les attaquants sont en même temps plus paresseux, font plus négligents, mais comme ils n'ont pas peur, ils s'en foutent, fait qu'ils continuent comme ça. Fait que, bref, ça va créer un paysage encore plus troublant cette année pour ce genre de choses-là. Microsoft Edge stocke ses mots de passe en clair dans la mémoire. Cette nouvelle-là, je la trouve intéressante, puis je l'amène là, pas parce que je suis outré, parce que Edge a fait ça. C'est plus, puis la nouvelle suivante aussi est dans la même perspective, c'est que c'est très difficile de sécuriser le navigateur web. Puis là, moi, je vais dans l'habitude, puis je vais faire la magamme des deux. C'est votre cellule capable de passer à travers l'encryption de Chrome pour aller récupérer de l'information, notamment les mots de passe. Fait que c'est un peu deux nouvelles similaires dans lesquelles Chrome a une approche beaucoup plus robuste à la protection des secrets que Edge peut l'avoir. Mais dans tous les cas, c'est très difficile de protéger le navigateur pour les mots de passe, tout ce que ça concerne, puisque on a comme un problème où la clé est à côté du cadenas beaucoup parce que le navigateur fonctionne dans l'environnement de l'utilisateur. Donc, incidemment, l'utilisateur a la clé pour déverrouiller la voûte de son Chrome, par exemple, de son Edge. Donc, on est dans un contexte de très difficile à sécuriser. Il y a des limites dans lesquelles ils ne peuvent pas aller et dans lesquelles c'est très difficile d'aller protéger beaucoup plus loin. C'est pour ça que des systèmes comme les voûtes de mots de passe externes ou même le système de Apple est beaucoup plus intéressant puisqu'il est détaché du navigateur lui-même. Donc, il ne vit pas dans la sphère de sécurité du navigateur. Donc, beaucoup plus facile à sécuriser. En tout cas, face au navigateur, fait qu'on ramène la voûte à l'extérieur, mais on est toujours dans un système où le navigateur va être pris parce que sa voûte de secret, même s'ils font des efforts d'ingénierie très forts comme Chrome a fait, qui sont quand même fantastiques. Dans le cas de Chrome, ce qui est fait, c'est que le malware se colle comme un module de debug sur Chrome. Puis du moment que le court moment que le mot de passe est mis en clair pour l'exécution, il l'intercepte et il va plus loin avec ça. Donc, on est dans un contexte où dans tous les cas, même si la voûte est complètement en clair en mémoire ou comme dans votre site-là, il fait se bloguer, il se blogue et se plug comme un débogueur. On est sensiblement au même état de situation et c'est pas très difficile de se brancher des bagarres sur Chrome puisque dans les deux cas, de toute façon, il est présumé que l'attaquant est déjà rendu sur la machine, donc l'info stylo est déjà rendu dans le périmètre de l'utilisateur et donc a une capacité d'attaquer qui est quand même non négligeable à ce moment-là. Bref, nouvelle suivante, Azure, les accès conditionnels, device code est encore utilisé, permet d'enregistrer temporairement un device avec un token et ainsi de suite, donc on est capable de contrôler les règles d'accès conditionnel. Sur cette règle-là, il y a comme un bypass, fait qu'il faut mettre ça de la main, ça pas s'en rappeler Evil Tokens. Donc, on est dans la même famille d'attaques. Donc, clairement, on va avoir d'autres de cette nature-là dans les prochaines semaines, j'imagine encore. Je pense que le filon n'est pas terminé. On va en avoir peut-être d'autres qui vont se matérialiser dans ce chemin-là. L'application faite par la Maison-Blanche que j'ai parlé il y a quelques semaines est un vrai bordel. Il ramène d'autres facettes qui sont complètement farfelues dans la façon que l'application a été montée, notamment qui va sur un GitHub pour aller chercher un JavaScript qui pourrait, si on attaque le GitHub en question, le compte est pris, alors c'est capable d'attaquer l'application. Bref, c'est un autre exemple de vibe coding qui est vraiment, vraiment, vraiment douteux. Ça l'amène ce genre de situation-là. Les mots de passe faibles exposent l'ensemble du réseau. On est encore dans la même situation. Le mot de passe est un problème. 60% des mots de passe MD5 sont craqués en quelques minutes ou heures, en tout cas, bref, dans l'article, mais en tout cas, en dessous d'une heure, en quelques minutes, tant qu'à ça. Fait que c'est de montrer à quel point ces stratégies-là, mais ça, plus on avance, plus le temps va se raccourcir. Mais c'était juste un rappel que c'est fait, puis c'est fait dans la journée du mot de passe aussi. Et de changer un peu les stratégies, ne pas utiliser des algos de hachage trop faibles de 1 et, si possible, de se déplacer vers le passkey, qui est une stratégie beaucoup plus robuste pour se protéger. Section bleue, sécurité par l'obscurité. Là, il y a un petit débat, ça revient souvent ce petit débat-là sur le fait que c'est bon ou c'est pas bon. Le par obscurité tout nu, effectivement, tout ça, c'est insuffisant. Mais l'ajout, puis pour en essayant, on le voit, plus on ajoute de la complexité par l'obscurité pour l'attaquant, plus il est lent à agir, plus on a du temps pour intervenir et limiter les dommages. Donc, dans un contexte, c'est pas pour arrêter l'attaquant, mais c'est pour le ralentir suffisamment pour nous donner une chance de se défendre adéquatement. Et le AI à ce stade-ci est encore insuffisant pour réussir à aller encore très rapidement. Donc, cette obscurité-là nous donne encore un avantage. Donc, on est bien de le faire, de ne pas trop divulguer, de ne pas jouer à la pure transparence. L'autre, c'est le fait d'avoir la rémédiation à l'âge de l'AI, le nombre de vulnérabilités de CVE qui est en augmentation, et l'analyse de CVE avec les criticités nous amène dans des contextes très difficiles, comment on avance. Donc, il va y avoir des réflexions à avoir de ce côté-là, on l'aborde un peu plus haut. Dernière section sur ce que je ne savais pas où placer. Deux petites nouvelles. La première, c'est un employé sur 8 est prêt à vendre Ses credentials, donc son mot de passe, c'est son nom d'utilisateur. Donc, savoir à quel point la loyauté des employés n'est pas tant élevée que ça contre tout simplement les acheter comme ça. Donc, c'est à se poser la question sur la loyauté. Comment les organisations peuvent regagner la loyauté des employés, les amener à se mobiliser davantage et aussi, d'un point de vue défensif, parce qu'on ne peut pas se prémunir contre tout, d'avoir des moyens pour détecter cette façon-là que les gens peuvent avoir de vendre leurs accès et que les conséquences. Dans la nouvelle, celle de Kevin Beaumont qui amène toujours une petite dose de rafraîchissement, de légèreté dans tout ça. Essentiellement, elle parle du fait que c'est Trellix qui a été attaqué par un ransomware. Donc, le fait qu'un fournisseur d'EDR a été attaqué et a été un rançon shell donne un peu une perspective étrange sur la qualité de l'EDR en question. C'est le même exemple que j'avais utilisé que j'utilise encore avec RSA qui s'était fait voler sa voûte de seed. Les compagnies de sécurité sont malheureusement des coordonnées mal chaussées, donc ils ne mettent pas d'énergie de temps sur leur sécurité intérieure qu'ils vont mettre sur le produit qu'ils vont vendre. Donc, c'est des questions à se poser. Et justement, savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on l'encadre correctement. Et que ces compagnies-là sont aussi susceptibles que n'importe quelle autre compagnie de se faire avoir. Donc, dès lors, d'être prudent malgré tout par rapport à ça. Et c'est pas un gage de sécurité comme on a tendance à dire, c'est dans une banque, c'est sécuritaire. Bref, il faudrait défaire ces paradigmes-là parce que ces paradigmes-là n'amènent pas la sécurité à aller plus loin. Donc, ça fait le tour. J'ai quand même réussi, même si je n'ai pas tant de nouvelles que ça, à quand même tirer quand même un bon bout de temps. Merci d'écouter. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de diffuser les autres épisodes cette semaine. Tout va glisser après ça. Une fois que je vais avoir défait celui-ci, tout va aller. La quantité de podcasts que j'ai dans les premières semaines est quand même assez importante. Donc, il va y en avoir beaucoup qui vont suivre. Donc, merci beaucoup. Puis, comme toujours, si vous avez des commentaires, des améliorations que vous aimeriez voir ou des sujets que j'aborde, je suis très facile à rejoindre et j'ai toujours capacité à améliorer ma prestation pour que ça aide encore quelque chose de mieux. Merci.